Énergie Violette a donné une course en pour vous accueillir. L'émission qui vous parle de développement personnel et de soins énergétiques. Namasté, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Énergie Violette. J'ai le grand plaisir d'accueillir ce jour une invitée très communicante et passionnante. Elle nous vient d'Italie et nous charme par son accent latin. Mais pour communiquer avec de nombreux êtres et leur apporter des soins, peu importe la langue et encore moins les accents. Avez-vous déjà entendu parler de la communication intuitive avec les animaux ? Cette méthode qui consiste à dialoguer de manière télépathique avec les animaux n'a de cesse de faire de nouveaux adeptes à travers la planète. Les animaux sont naturellement télépathes et certains spécialistes animaliers affirment qu'en réglant son psychisme sur la bonne fréquence, il est possible de parler aux animaux via la pensée. Alors, Giulia Pelucci, bonjour, ravie de vous recevoir.
Merci Adeline de m'accueillir ici et de me donner cette belle chance de parler au grand monde et au grand public de qu'est-ce que c'est la communication animale qui me passionne autant.
Merci Giulia. Alors justement, vous êtes ce qu'on appelle une communicante animale. Vous allez tout nous dire dans un instant sur la communication et les soins aux animaux. Vous préférez le terme de soins aux vivants, il me semble, de manière générale, que soins aux animaux, car vous pouvez également faire des soins à chaque être vivant. Mais avant cela, nos auditeurs, pour mieux vous connaître, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur vous. Alors, racontez-nous votre parcours, Giulia Pelucci.
Alors, on va démarrer du début.
Oui.
Je suis italienne et j'ai fait mes études en Italie et j'ai travaillé en tant qu'infirmière à 13 ans à l'hôpital en Italie. Ça paraît que ça n'a rien à voir avec ce que je fais partiellement aujourd'hui, mais pour moi, c'est très lié. Et en fait, pendant mes soins en réanimation, qui d'habitude on a l'idée que ce sont des soins très techniques, moi j'ai découvert un monde et j'ai mené une enquête, j'ai fait des études scientifiques, on pourrait définir ça, sur qu'est-ce que c'est le soin au-delà du technique. Et donc si avec la relation qu'on va instaurer entre la famille, le patient et tout ça, en fait, de quelque manière, on va le soigner, même si finalement, on ne fait pas grand-chose. Je suis après arrivée en France et là, j'ai eu une grosse épreuve. J'ai eu le cancer et ça m'a mis de l'autre côté de la barrière. En fait, j'étais plus soignante, mais c'était moi qui étais soignée. Et là, encore une fois, qu'est-ce que c'est communiquer avec les autres? Qu'est-ce que c'est de vivre tout ça? Et là, ça vient un jour, ma vision du vivant, donc de ce que d'habitude on appelle communication animale, moi j'appelle plutôt communication avec le vivant, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus que de la télépathie pour moi. Il y a de l'empathie, il y a une communication qui va de son cœur à ton cœur, et de cette compréhension, de cet espace qui s'est créé entre l'animal et l'humain, qui s'est créé entre l'humain qui est verbal et l'humain qui n'est pas verbal, donc qui est dans le coma, qui a des pathologies qui ne lui donnent pas accès au langage. Ben voilà, ça c'est un moyen pour avoir des infos, mais aussi pour donner de l'écoute. Et cette écoute-là sensible fait que moi, oui, je peux avoir des infos, mais ce n'est pas forcément les informations qui vont soigner la personne. C'est plutôt cette écoute qui va permettre à la personne de savoir et de comprendre d'où ils viennent et qu'est-ce qui l'amène en ce moment. Voilà, donc je commence un peu ce petit parcours. Et à fur et à mesure, j'ai je dirais mon mentor qui vient à moi. Et en fait, c'est un gros chien. Qui est à la base, quand je le récupère, je le trouve sur le bon coin et je ne comprends pas du tout pourquoi il tombe dans ma vie comme ça par hasard. Et avec ses difficultés, ses impossibilités à s'exprimer, en fait, il me pousse Il me pousse à m'investir dans cette façon de communiquer qui, pour moi, à ce moment-là, ne devient pas juste une possibilité, mais devient presque un besoin pour moi de pouvoir entendre ça et déjà le donner aux autres. C'est trop beau, moi, quand il y a un animal qui me fait confiance et qui s'exprime à travers moi, ben ça, c'est magique. Et voilà, donc après quelques années de pratique, j'ai décidé finalement de prendre mon rôle et aussi de m'investir en tant que professionnelle. De toute manière, je souhaite quand même garder une activité salariée d'infirmière un peu plus traditionnelle qui va quand même me permettre d'avoir une sécurité pour que si jamais aujourd'hui il y a des animaux qui sont dans le besoin, des personnes qui sont dans le besoin, je ne suis pas forcément dans la dynamique de devoir dire « je ne suis pas en mesure de t'accueillir, je n'ai pas de rendez-vous ». Non, je souhaite vraiment que mon parcours, ça soit dans la liberté de l'accueil de l'autre et pour moi aussi de dire si l'autre, je ne suis pas en mesure de m'occuper de lui.
D'accord, oui, je comprends. Comment on en vient vraiment à discuter avec les animaux? Et je voulais savoir aussi s'il y avait à la base, peut-être à la naissance, des prédispositions, ou il y en a qui appellent ça des dons, hein, des dons de naissance. Est-ce que vous pensez que ça part de là ou que ça c'est venu après?
Pour moi, penser que c'est un don, c'est presque dire qu'il n'y a que des petits qu'il n'y a pas grand monde qui peut avoir ça. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça, parce que moi, je pense que si on a l'envie de communiquer avec les autres, on peut apprendre le chinois, on peut apprendre le français, et on peut apprendre à se débrouiller. Oui, on peut apprendre à communiquer avec les animaux, mais surtout, c'est apprendre à s'écouter et écouter. Parce qu'après, on a toujours l'envie, nous, les humains, de dire des choses. Mais là, moi, je pense que la communication avec les animaux, tout le vivant, c'est plutôt de entendre, et c'est à partir de là qu'on peut démarrer ce joli parcours. Et les dons, oui, on peut les avoir, on ne peut pas les avoir. Moi, je me souviens que petite, peut-être que des intuitions venaient à moi, mais ce n'est pas à cause de ça que j'ai avancé. C'est vraiment une nécessité qui est arrivée après et qui a fait que moi, j'ai fait des efforts, je me suis engagée. Et ça, et c'est là que pour moi, ça devient vraiment quelque chose de magique et qui explose en toi.
Alors, nous parler d'engagement, d'apprentissage. J'ai vu, par exemple, en faisant des recherches sur ce que vous faites, que de nombreuses écoles de communication animalière voient le jour et proposent désormais des stages allant d'une simple journée à une journée complète. Ces formations, d'après vous, est-ce que voilà, c'est sérieux? Est-ce qu'elles sont accessibles pour tous? Puis faut-il avoir des prérequis pour pouvoir s'inscrire à ce genre de formation et de stage?
Pour moi, il n'y a pas de prérequis et il n'y a pas de formations qui sont bonnes ou pas bonnes. Il y a quelqu'un qui est très intuitif et qui est très à l'écoute de soi. Donc oui, forcément, ça peut lui suffire de rencontrer une communicante pendant une journée qui lui donne 2-3 pistes et là, ses capacités vont énormément évoluer. Après, et il y a des personnes qui, pour apprendre, non, ils marchent, ils font des études, ils prennent du temps, ils s'occupent de ça. De quelque manière, moi, dans mon parcours, je pense que si on veut rester sur le faire pour le plaisir, il n'y a rien qui est obligatoire. En fait, si je veux juste entendre les animaux, si je veux juste entendre un arbre, et je ne me pose pas des objectifs professionnels, n'importe comment je vais le faire, si je le fais avec mon corps ouvert, tout va super bien se passer et tu vas avoir des résultats. Par contre, je pense aussi que si on souhaite aider les autres, là, avant, ça serait intéressant de prendre cet engagement-là, que la formation, de quelque manière, c'est je m'engage du temps, je m'engage de l'argent, je fais des efforts pour que ce parcours aille aussi des résultats qui soient adaptés à la personne qui me pose la demande. Moi, la première chose qui me vient toujours à l'esprit quand j'ai une demande est est-ce que je suis assez capable pour répondre aux besoins de cet animal qui s'est confié à moi? Il y a quand même une forme de dire que c'est un chemin. Aujourd'hui, peut-être que je ne suis pas en mesure de m'occuper de tous les animaux, mais les animaux qui viennent à moi, ils ont quand même le droit d'être soignés. Donc, je m'engage à faire mon mieux. Et moi, je pense que c'est vraiment cette notion-là d'éthique où on ne communique pas pour avoir des infos. Alors pour moi, on peut répondre au gardien qui va nous demander si le chien il est content ou pas. on peut, bien sûr, on peut demander à l'animal, est-ce que tu es content? Mais de quelque manière, l'animal, il a demandé à venir ici, il a demandé à nous accompagner. Donc oui, il est content d'être avec nous, mais après, qu'est-ce qu'il nous demande l'animal aussi? Qu'est-ce qu'il nous renvoie? Et ça, c'est de l'investissement. Et moi, je trouve ça surtout super important quand on parle de problématiques de comportement, parce que moi, je ne suis pas comportementaliste, donc je ne m'engage pas à donner des réponses. Ou si on parle des animaux en souffrance, là, ben moi, je pense que si on n'a pas fait son chemin, on n'est pas forcément la personne qui est ouverte et assez disponible pour l'animal. Et il y a beaucoup de situations où il faut se dire, ben, en fait, non, je sais pas assez ce que je sais faire. Par contre, il y a plein d'autres communicantes, ceux qui m'ont appris et qui m'ont ouvert cet espace, qui seront te prendre en charge. Mais je ne pense pas pour tous les professionnels qui s'occupent du bien-être des personnes et des animaux.
D'accord, donc si je comprends bien, vous êtes quand même fait un peu guider, accompagner dans cette démarche. J'essaie de m'imaginer quelqu'un qui aime beaucoup les animaux et qui aimerait communiquer avec eux. Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller?
Alors déjà, il y a deux façons déjà pour s'appassionner pour moi. La première est lire. En fait, il y a énormément de livres, énormément d'articles qui parlent ça. Et il y a énormément de pistes qu'on peut découvrir sur Internet, avec des groupes Facebook, plein de ressources en fait. Mais pour moi, ça c'est s'ouvrir à quelque chose, voir qu'est-ce qui résonne en nous. Et une fois qu'on a trouvé la personne qui nous inspire, qui nous rassemble, ben là, pour moi, c'est joli de trouver quelqu'un qui nous accompagne et qui fait un chemin. Moi, j'ai suivi plusieurs stages. Moi, je ne suis pas de l'idée de dire qu'on est formé. Parce qu'on n'est jamais formé, on n'a pas de diplôme pour ça.
Mmh.
Est-ce que je peux être diplômée pour discuter avec un animal? Non, je ne me sens pas...
Non, on ne décerne pas de licence, de maîtrise, non. De master.
Alors,
non.
Il y a plein de formations qui l'offrent. Ouais. Il y a plein de formateurs qui offrent ça. Mais justement, comme je vous dis, pour moi, c'est juste la façon qu'on a d'approcher. C'est moi, un formateur qui délivre un certificat de communication animale, ça ne me correspond pas. Peut-être que pour quelqu'un, c'est important d'avoir un diplôme. Donc oui, pourquoi pas? Et de la même manière, il y a des gardiens d'animaux qui vont donner leur confiance à quelqu'un qui a un diplôme et des gardiens d'animaux qui vont par contre choisir de donner la confiance à quelqu'un juste parce qu'ils ont discuté, ils ont trouvé que la personne elle s'entendait très bien, elle était très à l'écoute et ça c'est la base de la relation qui va se créer.
Alors, vous parlez de gardien, mais en fait, c'est les propriétaires des animaux, c'est plus dans ce sens.
Oui, c'est dans ce sens. D'accord. En fait, il y a la notion de... Si on demande à un animal, en communication animale, qu'est-ce que c'est son propriétaire? En fait, il nous renvoie la personne qui le nourrit et qui s'occupe de lui. Donc, c'est pas du tout la notion du propriétaire qu'on a lui-même. Et donc, c'est pour ça que ça m'amuse un peu, le côté de garder, de s'occuper... Pour moi, un animal, c'est quelqu'un de la famille, quelqu'un qui en a accepté dans notre vie. Donc oui, nous, on est le gardien humain et eux, ils sont notre gardiens animaux. Il y a vraiment un échange qui ne parle pas du tout de propriétaire. Moi, je l'aide dans la vie en ville. Je l'aide à s'habituer, à habiter avec les humains. Et de la même manière, l'animal m'envoie plein des infos pour que moi, je puisse me reconnecter à tous ceux qui est le vivant et qui n'est pas forcément humain.
Vous dites quand même que cette expérience, enfin, cette avancée dans la communication animale est venue après, je dirais, un problème de santé assez important pour vous. Ça a été un effet déclencheur. Alors, peut-être que, voilà, il faut rassurer les gens sur le fait que si ça, c'est pas nécessaire d'avoir quelque chose de grave dans sa vie pour pouvoir aborder la communication animale.
Ah non, pas du tout. C'est plutôt, je dirais plutôt, que des fois, il y a deux moments dans notre vie où on revoit ce qui s'est passé et comment nous on a été, et si on a été en accord avec ce qui en est. Dans l'esprit ou pas. Et pour moi, ce moment-là, c'était vraiment un moment où je ne travaillais pas, où j'avais du temps pour moi. Et de quelque manière, me soigner, c'était aussi m'occuper de moi. Donc, m'occuper de moi et qu'est-ce qui me fait du bien? Ben, parler avec les animaux, communiquer avec la nature, ça me fait énormément du bien. Donc, j'y vais et je m'investis. Peut-être que ça fait du bien aux autres aussi.
Sans doute. Est-ce que les enfants ont plus de facilité pour communiquer justement avec, avec les animaux? Ou alors, voilà, est-ce qu'une personne qui est déjà plus mature, plus âgée, aura plus de mal à se laisser aller? Parce que vous dites que vous parlez avec le cœur. Voilà, on sait que quand on grandit un peu tous, on se met des cloisons, des limites. On n'est pas aussi innocent qu'un enfant et qui pourrait parler avec un animal. Qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, c'est beau ce que vous dites, parce que les enfants, quand ils naissent, les mamans, au bout d'un moment, vont dire « Moi, je sais ce que mon enfant pense, moi, je sais même ça qu'ils le disent. » Et la plupart des mamans, ils disent « Oui, en fait, je le connais tellement bien que je sais ce qu'il pense, je sais comment il vit et qu'est-ce qu'il ressent. » Mais de quelque manière, dans ma façon, c'est que l'enfant, il est tellement en lien à la maman, mais que ses pensées, elles passent, elles arrivent à la maman. Donc oui, la maman, elle le sait, mais aussi pourquoi? Parce que l'enfant les envoie aussi. Donc oui, de quelque manière, c'est hyper facile. Et pour les enfants, c'est hyper enrichissant quand on leur parle de communiquer avec les animaux. S'ils sont petits, ils ne vont pas te dire un non. Un enfant, ça m'est arrivé plusieurs fois, de dire à un enfant de 3 ans, ben, le pigeon qui est passé là, il m'a dit qu'aujourd'hui à l'école, t'étais pas bien. Et lui, il a dit, oui, à moi aussi, le pigeon, il me l'a dit. Donc en fait, ils ne doutent pas. Ils n'ont pas ce doute qui arrive avec l'âge adulte, où on se dit, mais est-ce que c'est vrai? Mais est-ce que nous sommes les intelligents, nous avons le langage, mais comment c'est possible ça? En fait, c'est juste la sensibilité qui va nous faire développer ça ou pas. Et notre choix aussi de vouloir donner confiance à la vie, aux animaux et à tout le reste.
C'est beau. Giulia Pelucci, on va faire une petite pause. Je vous ai demandé de choisir voilà, une musique qui vous plairait de passer aux auditrices, aux auditeurs. Nous allons l'écouter tout de suite. Oui, ça vous va? Ouais.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare.
ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
Énergie Violette en compagnie de Giulia Pelucci, communicante animale. Alors, Giulia, vous exercez donc la communication animale et les soins au profit des personnes qui ont besoin de comprendre leur animal. Que proposez-vous aux personnes qui demandent vos services ?
La première chose qui me vient à l'esprit quand vous me parlez de ça, c'est que des fois, on pense qu'on soin, c'est de quelque manière guérir. Non, pour moi, quand on parle d'un soin à un animal, des fois, c'est juste lui donner de l'écoute. Parce qu'en fait, une fois que l'animal a été entendu, là, le problème n'existe plus. Il avait juste besoin d'exprimer. Donc moi, la première chose, c'est on ne remplace pas des soins vétérinaires, on ne remplace pas un éducateur canin. C'est juste une autre approche complémentaire qui essaye vraiment de mettre à l'avance l'essence propre de l'animal. Donc, quelle sorte de soin ? Un soin, c'est un accompagnement. C'est juste lui donner un espace. C'est un petit moment d'ouverture pour l'animal qui est entendu. Et à partir de là, on pourra s'occuper de lui.
D'accord, donc vous énoncez clairement aux gardiens des animaux. Ouais. Donc quel genre de soins vous allez faire avec, quel travail vous allez faire avec l'animal ?
Alors déjà, la première chose, la plupart des communications ne démarrent pas comme en soi. La plupart des fois, le gardien, l'animal arrive à moi avec une demande très précise. Et des fois, la demande n'a pas du tout à voir avec le réel besoin de l'animal. En fait, la plupart des fois, les animaux, ils sont un peu des jokers, des acteurs, ils sont sympas, ils jouent un rôle où ils amènent des problèmes, ils amènent des soucis pour que le propriétaire, le gardien commence à essayer de trouver des réponses et les réponses, ils n'arrivent pas. Donc, il va demander de l'aide en communiquant, il va demander de l'aide pour une chose qui peut-être n'a rien à voir avec la demande de base de l'animal, qui montrait des fois les animaux, ils sont juste un miroir du gardien. Donc ils portent des problématiques qui de quelque manière parlent du gardien. Donc la plupart des fois, le gardien arrive et me dit « Mon chien, il ne mange pas. Ça fait 3 jours, il ne mange pas. » Et là, bon, donc, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? Est-ce que vous pouvez lui dire que j'ai déjà essayé d'échanger les croquettes, j'ai changé la nourriture ? Et là, là, c'est bizarre, parce que bizarrement, l'animal, il pose un problème qui n'a du tout rien à voir. En fait, il peut dire, ça fait une semaine que tu rentres tard du boulot, t'es toujours fâché, tu n'es pas content, tu ne t'occupes pas de moi. Et voilà, je ne mange pas. C'est la seule façon que j'avais de te dire et de montrer que je n'allais pas bien. Donc le gardien arrive avec une demande d'avoir une réponse et c'est la demande en elle-même qui nous pose l'intention du soin. Et là, il n'y a vraiment rien à faire. Juste le fait d'entendre l'animal, mais surtout l'engagement du gardien. Quand je parle d'engagement, oui, moi je peux donner des pistes, je peux donner au gardien de quoi il m'a parlé l'animal, quel côté de son corps peut lui déranger, qu'est-ce que ça peut être en blocage dans ses pensées. Mais après, c'est le changement du gardien qui fait que l'animal est guéri toute seule. Mais c'est une guérison qui est en chemin.
D'accord. Et alors, en général, les gens qui vous contactent, quelles sont les raisons ? Il peut y avoir, j'imagine, la maladie du chien ou la maladie de l'animal. Ou la fuite de l'animal, oui, peut-être qu'il y a des animaux introuvables ou...
La fuite des animaux, c'est une des raisons la plus récurrente pour laquelle on...
On fait appel aux
gardiens, et oui, en communiquant animal. Et en fait, c'est l'une des choses plus compliquées. Il y a la première chose, et ça m'est arrivé, c'était lors d'une formation, je me suis complètement trompée, dans le sens que si on ne le sait pas, un animal qui a fugué parce qu'il n'a plus envie de rester dans une maison, il ne va jamais vous dire qu'il est perdu. Il va vous répondre qu'il sait où il va. En fait, il est juste en train de s'éloigner et de dire qu'il n'a plus envie d'être là.
Oui, c'est volontaire de la part de l'animal. Ce n'est pas qu'il ne sait plus où il est, il ne s'est pas perdu en chemin, c'est que c'est une volonté pour lui de quitter la maison, c'est ce que vous êtes en train de dire ?
Oui, des fois, il peut y avoir des animaux qui décident de partir pour n'importe quelle raison. Et en fait, ces animaux-là, en communication, ils ne vont pas dire qu'ils sont perdus. Non, c'était juste un choix. Et pour moi, ça, c'est la difficulté. Un animal, on va lui demander où tu es, il va me décrire l'ambiance qu'il voit en ce moment. Donc, si on a la chance, il est en détail très parlant et l'animal, il ne bouge pas. Mais la plupart des animaux vivent dans des jardins, dans la campagne. Donc, ils vont commencer à dire qu'il y a un grand jardin, qu'il y a beaucoup d'arbres, que c'est très beau, qu'on se sent très bien. Mais de quelque manière, c'est un peu compliqué pour le gardien d'avoir des indices précis pour aller le chercher. Donc la plupart des fois, ce qui m'arrive par rapport à ces demandes, c'est qu'on demande à l'animal s'il souhaite rentrer et les raisons pour lesquelles le gardien il est inquiet. En fait, on lui dit « ta famille, t'attend, d'habitude tu partages plein d'activités et là ils sont en difficulté, tu leur manques ». Et pour moi, s'il y a vraiment cet engagement, c'est plutôt le lien qui va aider l'animal soit à se faire repérer, soit à rentrer tout seul, ou juste à créer des coïncidences que l'animal, il va rentrer dans un jardin, une personne le trouve, il l'amène chez le veto, et le veto, il a la pousse et fait que la personne rentre. En ce moment, beaucoup de demandes de chats qui partent.
Ah oui.
Et pour les chats, c'est super compliqué. En fait, quand j'ai une demande par rapport à un chat, difficilement, je m'engage avec le gardien, disons, je sens qu'on peut travailler ensemble. Ils ont vraiment déjà, le chat, il est indépendant. Et la plupart des fois, s'il décide de partir, j'ai décidé de partir, il y avait des choses qui ne me plaisaient pas. Donc, déjà, contacter l'animal qui peut être dans un endroit qu'il ne connaît pas. Mais surtout, pour moi, ça demande vraiment des vrais changements au gardien. Quand le chat, il va dire, tu viens d'adopter un autre chat et moi, je n'ai pas du tout envie.
Vous arrivez à dire ce genre de choses aux gardiens, comme vous les appelez ? Est-ce que vous communiquez tout ce que l'animal vous dit ? Est-ce que ça ne pose pas des problèmes ?
Déjà, on demande à l'animal s'il est d'accord pour communiquer. La plupart des fois, ils sont d'accord. Mais des fois, il y a des animaux qui n'ont pas du tout envie de discuter avec l'humain. Parce que l'humain les a blessés, ils ont eu des violences, ils ont subi des violences, ils n'ont pas envie de discuter encore un autre humain. Ils vont voir, moi que j'arrive toute contente, ils vont me dire « Non, 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 mais là, je me barre, pas du tout envie de discuter avec toi. » Et là, moi, je pense que c'est un peu l'attitude du communicant qui va faire te dire « Ok, on ne discute pas, je suis juste là pour toi. Dans 2 jours, je viens te revoir et je ne te demanderai encore rien. Par contre, si tu as des choses à m'offrir, alors je suis là. » Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un chemin pour ça. Et ça, ce sont des demandes assez fréquentes. Sinon, il y a beaucoup de demandes par rapport à des communications, par rapport à des troupeaux d'animaux. Tous les fois que pour un animal, il y a un changement, là, les animaux, ils ont leur propre avis. Un cheval n'a pas forcément envie d'être avec d'autres animaux.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'animal voudrait aussi passer un examen d'entrée avec le nouvel arrivant, c'est ça ? Il y a un recrutement qu'il aimerait faire à la place du gardien, non ?
Oui, c'est tout à fait ça. Ils ont vraiment leur propre avis. C'est magique parce qu'ils ont une personnalité. On dépasse le concept de « c'est un chien, donc ils obéissent, c'est un chat, donc ils sont indépendants, c'est un cheval, donc ils aiment être montés ». Non, pas du tout. Il y a il y a un cheval que j'ai vu dernièrement qui l'a carrément dit, tu trouveras le moyen de dire à ma maîtresse, lui il l'appelle comme ça, que si elle souhaite encore aller travailler avec les taureaux, ben, hors de question que je sois sage. Après, au gardien de l'entendre ou pas. Mmh. Et pour moi, il n'y a pas juste au faux. Hein. Et de la même manière, je ne demande pas que à l'humain de faire un effort. Des fois, l'effort, c'est même aussi pour l'animal de te dire on a entendu ta demande, je la transmets et on la laisse là. Après, on peut te faire des propositions, mais à toi aussi de voir si tu peux juste changer d'avis. Et en fait, ils sont magiques pour ça, parce que la plupart des fois, ben, d'une manière très étonnante, deux jours après, ben, ils ont changé de comportement et le problème n'existait pas.
Waouh! Alors, pour expliquer un petit peu comment se passe aussi une séance avec vous, lorsqu'un gardien, un propriétaire, un maître vous appelle pour X raisons, est-ce que vous pouvez dire un petit peu comment ça se passe?
Oui, c'est beau, parce qu'en fait, je pense que c'est très étonnant, parce que pour moi, c'est comme une rencontre entre amis. Moi, je ne me pose pas la question si je le connais, si je ne le connais pas, si on est entre humains, donc il faut vous voyez, il faut être dans le sérieux. Non, on sait qu'on est depuis toujours, et là, on a juste envie de demander au chien qu'est-ce qu'il a reniflé aujourd'hui. Donc la plupart des fois, des rencontres se font comme ça. Soit je suis chez moi, donc je le fais à distance, soit des fois je suis en présentiel chez l'humain ou dans l'endroit où l'animal vit, et je m'assois et je me fais toute petite comme si j'étais en tas de sable, mais je fais rien. Et je demande juste, je suis là, est-ce que tu as envie de discuter avec toi? Donc je prends un petit temps avec l'animal qui n'est pas forcément obligé de venir de suite. On peut s'occuper avec... Des fois, on voit des humains, on n'a pas de suite envie de montrer notre vie. Ben donc, je peux commencer, je bois un café avec le gardien, et déjà, on commence à voir un peu. Et d'habitude, là, dès que j'arrête de demander à l'animal de quoi il a envie de discuter, il a bien envie de montrer des choses. Donc, le premier détail qu'il donne, pour moi, c'est le départ duquel on va commencer à discuter avec le gardien. Et donc, en fait, ça se passe comme si c'était un appel téléphonique où on était trois. Sauf que l'autre humain n'entend pas ce qu'il dit l'animal. Donc, en fait, moi, je répète les réponses de l'humain à l'animal et les réponses de l'animal à l'humain. Je fais juste une traduction. Et quand on est là, ben voilà, on fait ce petit échange et on pose les questions qu'il a l'humain a. On entend les demandes de l'animal. Et après, pour moi, c'est toujours intéressant de laisser à la fin de ça un espace où l'animal, lui, il a envie de nous donner une piste. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de travailler? Ou pourquoi tu es là? Comme si, en fait, on dit aujourd'hui, on a parlé de quoi on a mangé. Mais après, derrière, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux? Les demandes de l'humain ne sont pas forcément les intérêts de l'animal. Et c'est là que tu découvres des choses magiques. Donc, des petites réponses. D'habitude, s'il y a des gros changements à faire, je demande à l'animal de se revoir dans une deuxième rencontre. Parce qu'on n'est pas obligé de changer d'avis de suite. Surtout si on lui demande de changer d'avis ou d'accepter des choses.
Oui, c'est pas toujours évident quand même.
Les demandes des humains ne sont pas forcément naturelles pour les animaux.
Alors, est-ce que vous avez justement des exemples comme ça de communication surprenante avec certains animaux?
Alors, je vous parle d'un exemple. C'était pas du tout quelque chose que je pensais que ça pouvait m'arriver. Alors, je suis rentrée en Italie et à côté de la maison de ma belle-mère, il y a un éducateur canin que je ressens très, très à l'écoute des animaux. Et c'était toujours mon rêve, en fait, de quelque manière, au jour, de pouvoir diffondre ça en Italie. Je pense que c'est moins connu qu'en France. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, j'aimerais bien discuter avec vous un jour, si vous avez le temps, juste de vous donner un autre, ce que j'ai vu de votre chien, ou juste en parler de ce que j'ai fait. Et quelques semaines après, il m'a écrit en me disant, pourras-tu communiquer avec ma chienne? Oui, c'était un peu le défi de lui proposer quelque chose qu'il ne connaissait pas. Donc moi, je communiquais avec le chien et il y a plein de choses qui sortent. par rapport à son passé, à ce qu'il avait subi et à comment il se sentait. Pour moi, c'était comme je pensais que cette personne, c'était un éducateur canin qui était bien à l'aise et que ce dont j'allais lui parler, ça n'allait pas l'épater, que c'était oui, quelque chose de naturel pour lui. Donc il me répond, à ce moment, je ne comprends pas comment tu as pu comprendre ça. Et je comprends que ça remet beaucoup en question tous ces liens. Mais les choses se passent. Il y a des mois qui passent. Et un jour, il y a une personne qui m'appelle d'Italie en me disant « Je connais un éducateur canin qui m'a donné vos contacts parce qu'il pense que vous pouvez m'aider. » Donc, je connais cette personne et on discute beaucoup par rapport à son chien qui a des difficultés. Et tout ça se passe dans l'amitié. Tranquillement. Après, les choses se posent et moi, j'ai presque oublié cette demande de ce chien, de cet éducateur qui est encore là. Et au bout d'un moment, il y a quelques soirs, je reçois un appel de cet éducateur en me disant « En fait, ça fait 8 heures qu'on cherche mon chien. Tu sais, depuis des années, je travaille la liberté pour les animaux et là, il s'est enfui. » Tout mon travail s'écroule. J'ai travaillé 10 ans sur la liberté des animaux. Et là, mon chien, le chien de l'éducateur, le super chien, il s'en va. Depuis 8 heures, on le cherche. Il n'est pas là. Il ne revient pas. Avec les autres chiens, tout le monde est épuisé. Moi, je suis en voiture et j'entends sa demande. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux faire? Et moi, je dis, bah là, pourquoi tu m'appelles? Oui, non, mais parce qu'on m'a dit que peut-être que tu es arrivé à le ressoudre et tout ça, il va pleuvoir et tout ça. J'ai dit, on est en train de parler de liberté. Tu as toujours demandé à ton chien d'être libre, de s'épanouir, d'être dans la nature. Et de quelque manière, j'ai l'intuition, raccroche et dis-lui que tu l'appelleras dans quelques minutes. Je lui dis, j'ai besoin de 5 minutes, je vais rentrer, je vais me poser. Et donc, je prends mon temps, je rentre, je demande un peu d'aide à mon chien, je demande de l'aide à d'autres chiens qui, je savais qu'ils étaient sur le site. Et dans ma tête, ce qui s'est passé, c'était vraiment tous les chiens que j'avais dans ma tête allaient presque faire une fête dans le pré. Ils étaient super contents et tout le monde rentrait parce qu'il faisait mauvais. Et ben, on avait fait la fête et là, il faut rentrer. Donc, je visualise ça et je me dis, ok, ça, je pense que c'est la piste. Pour moi, c'était la piste qu'il allait rentrer du pré et que les chiens allaient l'aider. Donc, je l'appelle et je lui dis, est-ce que tu es prêt demain à le garder en laisse? Et lui, il est étonné en disant, non, mais il est disparu. Tu sais, je travaille la liberté. Je dis, et là, ton chien, il est en train de te dire si demain, tu peux le garder en laisse. Pendant qu'on discute, j'entends un cri. Ah, les chiens, tous les chiens sont là, mon chien est arrivé.
Le chien est rentré en même temps.
En même temps, on était au téléphone. Et pour moi, c'était vraiment comme la confirmation que le chien voulait lui dire ça. Ça fait des mois que je te parle de liberté. Et le moment où, directement, je parlais à l'humain, est-ce que tu es prêt à garder ton chien en laisse? Là, le chien, il arrive.
C'est une jolie histoire.
C'est beau de voir les animaux qui peuvent s'exprimer pour moi.
C'est parfait, très jolie histoire. Merci Jolie, on va faire une petite pause musicale. Voilà, je vous fais écouter une musique de mon choix. À très vite.
La nuit entière glisse sur ta peau. Si chaud autour de toi, entre tes bras, l'air est si chaud, glisse sur ta peau. Éternelle.
fond sur ton dos, moite et si chaude. Autour de toi, entre tes doigts, l'air est si chaud. Fond sur ta peau.
Énergie Violette, on retrouve notre invitée Giulia Pelucci, communicante animale. Alors, beaucoup d'auditeurs ne connaissent pas la communication animale et ont peut-être toujours eu envie de savoir ce que pense leur animal, ou bien de savoir pourquoi leur animal réagit telle ou telle manière dans une situation donnée. Et pour être intéressée par vos services, Giulia. Donc, je voudrais savoir déjà, est-ce que vous obtenez toujours des réponses de l'animal à donner aux propriétaires, aux gardiens ?
Déjà, il veut comprendre si l'animal il a envie de discuter de cet argument. On peut y revenir. Pour moi, c'est, dès la plupart des fois, c'est pas que l'animal il veut pas donner une réponse. Est-ce qu'il y a une réponse qui... C'est pas forcément la réponse que le propriétaire il s'attend. Est-ce que le propriétaire il est prêt à entendre une réponse? Pour moi, c'est plutôt ça la question. On va pas forcément demander si l'animal a envie de discuter ou pas. Ça oui, ça peut arriver. Il y a des événements, des fois, ça me revient à l'esprit. Il y a des animaux qui ont eu des choses compliquées à gérer, qu'ils n'ont pas forcément envie d'aller les voir. Mais est-ce que la motivation pour laquelle le gardien demande à avoir cette question, elle est sensée? Est-ce que, des fois, ça m'est arrivé que des animaux récupérés dans des refuges, le nouveau propriétaire, il demande une communication animale pour savoir qu'est-ce qu'il est arrivé à l'animal pour qu'il soit arrivé en refuge. Oui, des fois, l'animal a envie d'en parler, des fois, pas du tout. C'est juste de la souffrance et il, avec sa nouvelle vie, il a juste eu envie de recommencer. Donc oui, cette fois-là, peut-être que je n'aurai pas une réponse, mais c'est plutôt de dire l'animal, il a choisi de ne plus alimenter cette partie-là de sa vie. Il a choisi de faire autre chose. Donc pour moi, c'est pas je ne veux pas donner une réponse, c'est plutôt le choix de l'animal de quoi il veut vivre et de quoi il veut s'occuper.
Je comprends. Alors, en dehors de la communication animale, vous arrivez aussi à faire des soins aux animaux. Est-ce que c'est généralement les propriétaires, les gardiens qui le demandent? Est-ce que c'est l'animal qui le demande? Et en quoi consistent ces soins?
Comme je vous ai dit avant, un soin, ce n'est pas forcément guérir. Je dirais plutôt, si je dois trouver un mot, c'est harmoniser. En fait, la communication intuitive, empathique, cette communication de cœur à cœur, pour moi, c'est un moyen pour accéder à l'animal et pour accéder à son corps, ses ressentis. Donc oui, la plupart des fois, quand il y a une communication, de quelque manière, il y a des choses qui s'harmonisent et c'est ça, c'est le soin qui arrive à l'animal. Et des fois, il y a vraiment juste là un endroit physique qui lui fait mal et qu'il accepte de partager avec moi. Donc, moi, je peux savoir, même si je suis à distance, qu'un chien, il a mal à une patte. Et là, je vais dire au propriétaire, en fait, quand je me connecte à votre animal, je ressens qu'il a mal à une patte. Donc, qu'est-ce que ça fait en moi, ce mal à la patte? C'est comme si moi, je vais chercher cette sensation dans mon corps et voir qu'est-ce que ça me fait. Donc, est-ce que le mal dont tu m'as parlé, il est encore là? Est-ce que je le ressens? Est-ce qu'on peut l'atténuer? Donc, je fais confiance à la sensation que j'ai dans mon corps pour savoir si dans le corps aussi de l'animal, ben, c'est comme si ça s'harmonise, cette douleur, elle va partir. Ça peut parler de quelque chose que c'est un blocage physique, mais aussi de quelque chose qui est plutôt lié à son mental, à sa façon de faire. Des fois, des animaux, ils sont vraiment super stressés. Et là, c'est comme si leur corps, il est tout tendu. Et c'est quand j'arrive à ressentir cette tension-là, là, je peux juste la ressentir en moi. Et ce ressentir-là, c'est un peu comme si on la partage. Et c'est ce partage-là qui fait que l'animal, il a moins de poids à porter. Et bien, c'est là qu'après, il commence à guérir et à se auto-guérir. Il y a vraiment pour moi cette notion de là, je t'ouvre juste une petite porte pour qu'après tu puisses te guérir et puisses mieux t'adapter à ta vie.
Est-ce qu'on peut parler dans ce cas d'échange d'énergie, d'harmonisation au niveau énergétique, ou bien alors c'est simplement une prise de conscience aussi de l'animal par rapport à ce que vous lui montrez?
Les deux. C'est sûr qu'il y a un échange d'énergie, parce que moi, quand je me connecte à l'animal, oui, quand vous dites, ça peut être de la télépathie, ça peut être mon cœur qui vibre la même vibration de l'animal, oui, de quelque façon. Donc, nous, on s'est connaît. Et c'est dans cette connaissance-là, oui, il y a des énergies qui passent, on peut le soulager, on peut l'aider. Il y a plusieurs façons de faire. Pour moi, l'important, c'est vraiment de laisser se porter. Et dire que cette énergie de l'animal que moi je ressens, mais aussi l'animal il s'occupe de moi au même temps que moi je m'occupe de lui. Donc voilà, cette énergie que moi je ressens, c'est un petit lien dont on peut s'occuper et laisser fleurir, parce qu'en fait, si on pense que c'est nous qui allons tout guérir, non, c'est pas moi. Je pense que des choses se passent. Oui, parce que je suis là. Et je les vois passer, mais c'est comme s'il y a un dessin, s'il y a la vie derrière, qui je permets juste à la vie un peu de s'exprimer, d'ouvrir cette petite porte pour que la magie de la vie, oui, de ce mouvement-là, revienne à l'animal et le remet dans ce mouvement-là de guérison.
On a appris plein de choses grâce à vous aujourd'hui, Giulia Pulci. Merci beaucoup. Voilà, je pense que nos auditeurs, auditrices ont dû être très, très intéressés par tout ce que vous avez dit. Est-ce qu'on peut dire combien coûte une séance avec vous lorsqu'un gardien vous contacte pour son animal?
Oui, il n'y a pas de souci. Une séance de communication animale, ça part pour moi, de toute manière. Mon tarif, c'est aux alentours de 50 euros. Ça dépend de l'engagement, ça dépend du temps qu'ils me prennent et aussi du suivi qu'il faut faire. Des fois, c'est pas nécessaire de revenir avec l'animal, ça se passe super vite. Des fois, c'est nécessaire d'avoir plusieurs communications. De quelque manière, pour moi, quand un propriétaire me demande mon aide, pour moi, j'essaye de rester sur ce montant-là et pas dire que la guérison va se faire parce qu'on va avoir plusieurs communications. Non, après, des fois, ça peut arriver, mais ce n'est pas forcément le but. Moi, je pense que si on est dans la bonne énergie, le soin se passe et l'animal nous aide et nous suit. Et dans ma philosophie, je trouve ça beau et c'est ma philosophie, chaque semaine, je me regarde en créneau pour un animal qui a besoin et qui vient à moi.
Très bien. Alors, on n'a pas forcément, ce que j'ai compris, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de se déplacer pour vous voir, pour vous présenter l'animal, que vous pouvez faire ça à distance. Maintenant, comment on peut prendre contact avec vous, Giulia Pulci, pour une séance?
Alors, j'ai une page Facebook qui s'appelle Giulia Pulci, l'apprenti chien. En fait, c'est moi, toujours mon chien qui m'aide, donc c'est lui qui a donné ce petit nom-là. Sinon, j'ai mon portable et une page professionnelle en site internet, ça doit être www.giuliapelucchi.fr.
Eh bien, on mettra toutes ces coordonnées sur le site de la radio. Voilà. Giulia Pelucchi, merci infiniment d'avoir témoigné de votre activité passionnante avec les animaux. Voilà, c'était Énergie Violette, une émission présentée par Adeline Courson avec à la technique Tiffen. Merci beaucoup.